I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet
qui, moi, me hype un peu.
On l'a mentionné tout à l'heure.
Tout à fait.
On va parler console, on va parler gaming, mais...
Une fois n'est pas coutume.
Bah oui, bah justement, si, c'est rare, quoi.
Oui, oui.
C'est l'inverse.
Je suis fatigué, moi.
C'est l'inverse. Et
Linux.
Et
quand même être un...
Et Valve et tout ça.
Voilà, pour ceux qui ont un petit historique sur cette OS, ça paraît...
Par les gaming et Linux, il y a un petit...
Oui, il y a un crossover étrange.
Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on se hype de ouf en mode « Waouh !» et tout, alors que aucune personne dans cette salle
ne joue aux jeux vidéo.
De temps. On adore tous ça, on est tous passionnés.
Ouais.
Mais...
Exactement.
Moi, personnellement, j'ai pas joué à des jeux vidéo depuis trop longtemps.
Moi, tu sais ce que j'aime bien faire, c'est regarder des vidéos de gens qui font ça pour ne jamais l'utiliser après.
Ouais. Mais oui.
Mais c'est pas grave.
Mais c'est pareil, c'est quand on regarde sur Twitch des gens jouer aux jeux vidéo, je regarde plus de gens jouer aux jeux vidéo que je joue aux jeux vidéo. En fait, et je suis très content.
C'est le petit effet nostalgique de te projeter, ouais. De dire « Ah, si mon moi de 14 ans avait vu ça,
attends, mais
j'aurais
je crois,
kiffé. »
Oui, mais je crois aussi que aujourd'hui, on kifferait. Si on jouait, on kifferait de ouf. Mais juste,
tu vois, tu te projettes, tu prends tes yeux d'enfant et tu redécouvres ça.
Le fait que ça soit possible te donne du bonheur.
Absolument.
Et là, si justement vous avez à une certaine époque, imaginez l'idée que vous pourriez avoir à la fois de prendre les avantages finalement du PC avec l'expérience utilisateur de la console, vous allez découvrir que maintenant, cette fusion est devenue possible. Et en plus, dans des conditions hyper intéressantes, puisque gratuites, open source, etc. Vous allez voir, enfin, moi j'ai un peu halluciné parce que j'ai pas beaucoup suivi le gaming DIY / Linux depuis des années. Et j'ai découvert qu'en fait, ça avait bien, bien, bien progressé. Il y avait des petites dingueries maintenant.
Et on va voir pourquoi.
Exactement. Je récapitule. Depuis des années, si vous voulez jouer à des jeux vidéo exigeants en termes de performance, il y a deux possibilités. Les consoles d'un côté, avec PlayStation, Xbox, et les PC de l'autre. Tournant sous Windows, il n'y a pas vraiment d'autre choix historiquement. Mais ça, c'était sans compter sur Valve, l'entreprise derrière Steam, qui a voulu complètement renverser cet état de fait. Après des années de développement, des projets tous plus fous les uns que les autres, aujourd'hui, en 2024, vous pouvez vous fabriquer votre propre console de salon sous une distribution Linux très spéciale et faire tourner les jeux les plus exigeants. Mathieu, tu vas nous expliquer comment c'est possible et comment faire.
Ouais, et vous expliquer comment tout ça nous est arrivé aujourd'hui, pour qu'on puisse faire ça aujourd'hui en 2024. Un petit peu l'historique de ce qui a amené à pouvoir jouer sous Linux.
Parce que là, je me demande quel est le rapport entre Steam et avoir une console de salon pour l'instant.
Et Linux. Pour l'instant, rien n'est cohérent. Tout commence il y a une dizaine d'années avec donc Valve, la société qui est derrière Steam, la plateforme de distribution de jeux vidéo bien connue. Et Valve commence à ce moment-là à être critique envers Microsoft et Apple pour leur OS respectif qu'ils trouvent assez contraignant en termes d'applications qui s'exécutent sur leur OS. Et principalement Windows, parce que quasiment tous les jeux tournent sous Windows. Et ça embête un peu Valve parce que ça menace et ça contraint directement ou indirectement un petit peu leur business. Ils sont vachement dépendants de plateformes qui ne leur appartiennent pas. Lors de la sortie de Windows 8 en 2012, le PDG de Valve, qui s'appelle Gab Newell, déclare même que cette OS est une catastrophe pour tout le monde dans le milieu PC. Pour un PDG d'une société comme Steam, il y va au bazooka, globalement. Il n'en fallait pas plus, et le 16 septembre 2013, voici ce que dit Gab Newell à la LinuxCon. On l'écoute.
Hi, I'm Gabe. It feels a little bit funny coming here and telling you guys that Linux and open source are the future of gaming. Sort of like going to Rome and teaching Catholicism to the Pope. So.
Il a un bon sens de l'humour, mais c'est vrai qu'il faut quand même y aller pour dire qu'en 2013, Linux est le futur du gaming. Il balance ça en 2013, donc c'était il y a 11 ans. Et à partir de ce moment-là, Valve veut s'affranchir, ou en tout cas du moins réduire sa dépendance aux OS propriétaires, comme je l'ai dit, en premier lieu Windows. Et donc ils vont commencer à inciter et accompagner les développeurs de jeux à distribuer des jeux compatibles Linux. Ils vont d'un autre côté développer leur propre distribution Linux spécialisée dans le jeu vidéo qui s'appelle SteamOS. La version 1 sort en 2013, et une deuxième version qui suit à peu près dans la même idée en 2015. C'est des distributions basées sur Debian, pour ceux qui connaissent, une distribution Linux très connue.
Juste petite question, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi c'est intéressant? Parce que peut-être que des gens qui nous regardent peuvent se dire, ok, Linux, il n'y a pas beaucoup de jeux, comme sur macOS, il n'y a pas beaucoup de jeux. C'est juste que c'est une histoire de marché, les gens n'ont pas la détermination de publier leurs jeux sur Linux. Mais en fait, il pourrait très bien. Enfin, je veux dire, on peut se débrouiller pour faire tourner des jeux Linux. Est-ce que tu peux expliquer quel est l'enfer de faire tourner des jeux Windows sur Linux à une certaine époque ? C'est-à-dire que c'est pas du tout un paradis du gaming. En fait, au moment où il dit ça dans cette conférence,
ça n'a aucun sens.
Il faut contextualiser pourquoi c'est particulièrement étrange, quoi.
Parce que Linux est principalement utilisé sur des serveurs et c'est une distribution, enfin c'est un OS très très bon pour ça, quasiment, j'ai pas les chiffres, mais 98% des serveurs tournent sur Linux. En revanche, sur les OS destinés à des ordinateurs de bureau, donc pour nous particuliers, c'est l'inverse. Il y a peut-être max 5% de PC qui tournent sur Linux. Et donc vu que les jeux vidéo sont des applications qu'on fait tourner sur nos propres ordinateurs personnels, il y en a très peu sur Linux parce que le marché n'est pas là. Et là, il y a Steam, donc vraiment leur business model, c'est le jeu vidéo, c'est une plateforme de jeux vidéo, qui disent on va tout miser sur Linux. Ça n'a, entre guillemets, pas de sens. C'est très étrange. Ok, on comprend qu'ils sont un peu fâchés avec Windows et Apple, avec Microsoft et Apple, mais c'est quand même très étrange de dire le truc là, vous utilisez sur des serveurs, ouais, Red Hat, ouais, c'est cool. Allez, plateforme de jeux vidéo. Aucun sens.
Surtout, vu l'historique, parce qu'en fait, là où Microsoft a toujours été très bon, c'est qu'ils ont créé des outils et un peu un écosystème pour les développeurs de jeux, pour les attirer. Et quand tu regardes dans les jeux vidéo, il y en a énormément qui sont conçus pour des frameworks spécialement Windows, genre DirectX.
J'allais le citer.
Exactement. Ouais. Ou des choses comme ça, qui a été un peu la secret sauce de Microsoft pour maintenir beaucoup de jeux dans leur giron, entre guillemets, et qui ont fait par la suite que sur Linux, il n'y avait aucune offre. Il fallait utiliser des systèmes avec Wine ou des Play on Linux, si c'est peut-être des noms qui vous disent des choses. Et ça marchait une fois sur 12 millions, c'était l'enfer. Donc effectivement, là, c'est dire que Linux est le futur du gaming, c'est plutôt osé.
Et tu parlais de DirectX, globalement, il n'y a aucune bonne techno vidéo qui s'adresse, qui dialogue avec les cartes graphiques, qui est approprié pour faire tourner des jeux vidéo, en fait. Et donc, forcément, s'il n'y a pas les technos, les développeurs, ils ne viennent pas et ils ne développent pas de jeux vidéo, comme tu l'as dit.
Quand j'étais gamin, moi, DirectX, c'était une entité maléfique ou je ne sais pas ce que c'était exactement. À chaque fois que je voulais jouer à un nouveau jeu, bordel, j'avais pas la bonne version de DirectX. Il fallait tout le temps que j'installe un truc de DirectX. Et moi, je ne sais même pas ce que c'était DirectX. Je disais, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ton DirectX?
Et donc, on a un peu détesté DirectX. Je me souviens.
C'était terrifiant.
Il faut dire qu'au moment où c'était rendu disponible, c'était une petite révolution. C'est pour ça aussi qu'ils ont réussi à se bouffer tout ce marché-là. Mais
on en est donc là. Steam a insufflé un peu un vent de nouveauté et d'espoir même dans la communauté Linux. D'une part, en créant leur OS, SteamOS, pour le jeu vidéo basé sur Linux, alors qu'ils auraient pu faire autrement. Et en plus, en essayant d'inciter les développeurs à créer des jeux vidéo pour Linux. Et le premier qui va se réjouir, c'est Linus Torvald, donc le créateur du loyaume Linux. Il va dire, je pense que c'est une chance qui pourrait vraiment aider Linux sur les ordinateurs de bureau. Donc vraiment qu'il y ait plus d'ordinateurs de bureau avec des distributions Linux. Fin 2015, nouvelle étape, ça y est, on passe un peu dans le concret. Steam sort sa Steam Machine, une console de salon qui tourne sous SteamOS, évidemment. Et donc, là, on peut se dire, OK, Linux et le jeu vidéo, c'est enfin réellement parti après 2-3 ans de développement.
Se concrétiser.
On a enfin la première console de salon qui tourne sous Linux. Est-ce que vous avez entendu parler des Steam Machines ?
Des Steam Machines, je n'en ai
pas. Steam Machines.
Tu sais que quand
ça ressemble à ça.
Quand tu l'as dit, j'étais en mode,
Ouais, cool. Mais comment j'ai jamais entendu parler de ce truc. Non, mais c'est vraiment sorti.
C'est vraiment sorti. Alors, la bêta, enfin, des POCs sont sortis. Il y en a 300 qui sont sortis. Là, ce que tient Linux Tech Tips, c'est un prototype. C'est ouais. Ça le mot que je cherchais. Mais je crois que ça s'est vendu. Mais c'est un total échec, malheureusement. Et il y a plusieurs raisons à cet échec. Mais il y en a une particulièrement qui nous intéresse. Il n'y a toujours pas assez de jeux natifs qui tournent sur Linux ou sur SteamOS. Et donc, qui dit pas de jeux qui tournent, ben, ça fait une console qui ne fonctionne pas. On peut se dire, bon, est-ce que c'est la fin de Linux en tant que plateforme de jeux vidéo ? Ça n'en est pas fini pour autant. On rappelle que notre but, à nous, c'est de pouvoir fabriquer sa propre console de salon et d'oublier toutes les autres et donc du coup d'installer ce qu'on veut dessus et donc de pouvoir installer un Linux pour faire une console de salon, pas une petite console de salon avec un Raspberry pour émuler des petits jeux rétro gaming. Non, pour pouvoir faire tourner les AAA qu'on connaît, les GTA, les Cyberpunk, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas
peut-être
très calé au jeu.
Peut-être mieux que sur votre PS4 ou PS5. Etc.
Complètement, et voilà. Peut-être même mieux. C'est à ce moment-là que rentre en jeu un nouveau personnage. Il s'appelle Aleš Slovák. Il se fait appeler Alcazar sur Internet. C'est un développeur et lui, il aime beaucoup l'idée de SteamOS. Il l'a installé sur son PC de salon. Il avait déjà cette idée de se créer un peu une console PC de salon. Mais il finit par être un peu frustré par l'expérience, un peu comme l'ont été les propriétaires de Steam Machine. Ça ne marche pas suffisamment bien. Et il se dit, il remet une distribution qui s'appelle Arch Linux sur son PC de salon. Parce que c'est sa distribution de cœur qu'il utilise à côté sur son PC personnel. Et il ne va pas en rester là parce qu'il se dit « Ah, j'aimais bien quand même le concept de SteamOS, c'est-à-dire d'avoir un peu une interface vraiment console quoi, qui n'est pas une interface de PC. » Et il va commencer à vouloir intégrer les bonnes idées de SteamOS sur un fork de Arch Linux. Donc en fait, de créer son propre SteamOS, mais pas basé sur Debian comme c'était le cas avant. Il le fait sur Arch Linux, qui est une autre distribution de Linux. Il crée ça, au début il l'appelle GamerOS, mais très vite il l'appelle ça Chimera OS. Il fait ça dans son coin, et comme tout projet que tu commences à faire dans son coin, à un moment tu le partages à d'autres gens, et ça devient un vrai projet, Chimera OS, et il fait des ajouts, outre le fait de rajouter la surcouche SteamOS par-dessus une autre distribution Linux, il fait des ajouts super importants pour la suite. Notamment, il crée en fait un système de mise à jour automatique personnalisé. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail, au pire ça sera coupé au montage. En fait, il crée un OS immuable, comme on appelle sur Linux. C'est un système en lecture seule où le cœur ne peut pas être modifié. Donc en fait, tu ne peux pas le mettre à jour. La seule façon de le mettre à jour, c'est de le redémarrer. Et il y a un système de partition A, partition B, oui, où en fait, tu mets à jour l'une partition, et si ça met sa plante, tu repasses sur l'autre. Et en fait, c'est une sécurité supplémentaire à juste mettre à jour tes paquets manuellement. Et en fait, ça apporte beaucoup plus de sécurité et de stabilité à un OS. C'est, d'un autre côté, beaucoup moins flexible. Pour un ordinateur de bureau, ça serait un peu un enfer d'avoir ça, si on veut installer des nouveaux paquets, etc. Mais pour une console de salon, en fait, c'est une super idée de faire un OS immuable, parce que les deux sont complètement cohérents.
Et c'est ce que feraient des vraies consoles, pour le coup.
Et c'est ce que font des vraies consoles. Pour l'exemple, c'est ce que fait Chrome OS aussi. Chrome OS est un OS qu'on appelle immuable. Et en fait, il y a plein de problèmes qui sont réglés. Il n'y a pas de problème de dépendance. Pour ceux qui ont travaillé un peu avec Linux, c'est des choses qui arrivent beaucoup. Toutes les applications sont containerisées. Donc, ils tournent dans une sandbox individuelle. Donc, tout ça fait que c'est beaucoup plus sécurisé. Et en fait, c'est une très bonne idée. Petit saut dans le temps, donc ça, on est sur notre développeur qui fait ça dans son coin. En 2021, Valve revient, après sa Steam Machine complètement claquée au sol, il revient et annonce et sort, ce que vous connaissez tous, le Steam Deck.
Yes!
Avec un trailer.
C'est trop stylé.
Ou juste avec un trailer, ils vont pré-vendre plus d'un million d'unités en quelques semaines. Honnêtement, c'est un carton. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce SteamOS, sous quoi il tourne ? Il y a bien un OS derrière. Il tourne sur SteamOS version 3. On n'en a pas encore entendu parler de la SteamOS version 3.
Est-ce que c'est nul et qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, du coup ?
Est-ce que c'est nul et est-ce qu'il y a...
Vous savez la réponse.
Il n'y a pas beaucoup de jeux. Si, il y a plein de jeux et c'est incroyable.
Et personne ne comprend.
Tu peux quasiment jouer à tous tes jeux Steam que tu avais dans ta bibliothèque Windows. Comment c'est possible?
Ben c'est ça, je me souviens de ce moment-là, il y a une incompréhension de... Attends, ils viennent de sortir une console qui est un peu une sorte de format de Switch, qui est, se synchronise sur ton compte Steam, et sur laquelle tu peux jouer à quasiment tous tes jeux, toute ta bibliothèque est sur cette machine, et elle a une super longue autonomie, et on pressent que c'est pas Windows.
C'est une console portable. C'est dans un form factor, c'est pas une carte graphique RTX, j'ai oublié là, j'ai oublié les références, c'est une console portable, donc il peut pas y avoir un énorme GPU. De faire tourner un The Witcher ou je sais pas quel jeu, un Cyberpunk 2077, là, 2077, ouais. C'est incroyable.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Qu'est-ce qui se passe Ça, on sait juste que ça tombe sous SteamOS, sous SteamOS 3, sauf que contrairement à SteamOS 1 et SteamOS 2 à ce moment-là, SteamOS 3 n'est pas disponible au téléchargement. Parce qu'en fait, ce n'est pas une version pour les PC de bureau, c'est une version pour le Steam Deck, qui est une console portable. La seule chose auquel on a accès, c'est une version, une image disque de SteamOS pour de récupération. Si jamais tu fais des bêtises avec ta Steam Deck et que tu veux réinstaller ton OS, ils disent télécharge ça, remets ta console en format usine et ça la formate. Sauf que du coup, il y a une image qui est disponible de SteamOS 3. Forcément qu'il y a des petits hackers dans un coin de la planète qui vont essayer de comprendre comment fonctionne SteamOS.
La secret sauce.
Exactement. Et c'est évidemment ce qui va se passer, et notamment quelqu'un qui s'appelle Adam Jafarok, qui va complètement rétro-engineerer la version de SteamOS 3.
Cette photo GitHub. Putain.
Ouais, alors...
Bah ça se voit que...
C'est des gens, c'est des craques, hein. Mais ils ont un peu moins de compétences à mettre non, mais des photos stylées.
Ça prouve bien que quand t'es une légende et que t'as une photo comme ça, ça veut dire vraiment...
Évidemment, c'est absolument une légende. Et il l'a tellement bien réintro-ingénéré, SteamOS 3, qu'il en a fait une version à lui, open source, qui s'appelle HoloIso. C'est une autre version. Et qu'est-ce qu'on découvre de cette rétro-ingénierie? Premièrement, que... en fait... Et d'ailleurs, le développeur de Chimera OS s'en rend compte. Qu'est-ce qu'on découvre avec SteamOS 3? C'est qu'il y a énormément de similitudes avec Chimera OS.
Ah mais non!
Et c'est assez incroyable. C'est un OS immuable. C'est basé sur Arc et non plus Debian. La gestion des applications est sandboxée avec un service qu'on appelle Flatpaks, pour ceux qui connaissent. Et il y a deux modes, un mode gaming et un mode desktop, comme Chimera OS. Il y a des similitudes assez incroyables. Alors, on ne sait pas à quel point ils ont le droit de pomper. Hein. Tout est open source et tout ça se fait. Tout le monde est tout open source. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes marrantes. Et donc, du coup, il y a Aleš Slorvák, Alcazar, on va l'appeler. Alcazar, il se dit surpris, mais honnêtement, il est très heureux parce que déjà que certains de ses choix soient repris. Et en plus, il y a des fonctionnalités qu'il attendait sur SteamOS qui arrivent enfin. Et donc, il est plutôt très heureux. Pour la petite histoire, il a eu des contacts avec Valve. Et ils l'ont remercié. Ils lui ont offert une clé Steam pour jouer à tous les jeux Valve. Voilà. Donc, du coup, en fait, ces gens communiquent. Ça se fait plutôt bonne entente, même si, c'est pas non plus les meilleurs potes du monde. Bref, le Steam Deck est un carton. Et grâce au Steam Deck et à SteamOS 3, l'écosystème pour jouer sur Linux se développe. Mais comme tu l'as dit, il reste un problème. Comment, là, il y a un OS vachement optimisé et tout, machin, comment on peut jouer à des jeux sur Windows? Il n'y a pas eu beaucoup plus de développeurs qui ont adapté leurs jeux pour Linux. Comment ça se fait qu'on peut jouer?
Ils sont tous dispo.
Ouais. Ils sont tous dispo, quasiment, sur le Steam Deck, alors que pour l'instant, tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui puisse les faire tourner et qui a bougé, on va dire. Et bien là, on arrive à un nouveau projet de Valve, et c'est le projet qui a tout fait changer aux jeux sur Linux. Il s'appelle Proton. Et c'est ce projet Proton qui a donné à la feature grand public qui s'appelle Steam Play, des années auparavant. Steam Play, c'est vous achetez un jeu vidéo sur Windows. S'il est disponible sur une autre plateforme, Mac ou Linux, vous pouvez jouer sans avoir besoin de le racheter. Oui. Mais en fait, ça, c'est la fonction grand public. Derrière se cache Proton. Qu'est-ce que Proton? C'est une couche de traduction pour faire tourner des applications Windows sur un autre environnement. Sauf que ce qui est incroyable, c'est que ça n'est pas une couche d'émulation. C'est basé sur Wine, comme tu l'as dit, sauf que c'est Wine poussé avec des curseurs plus, et qu'en fait, ils font en sorte de traduire tous les appels API Windows en appels API sur Linux. C'est-à-dire que toutes les communications qu'il y a entre une application Windows, il faut essayer de retranscrire ça dans un OS qui n'est pas du tout le même. Le noyau est radicalement différent. Proton, ils se sont dit, OK, Si les développeurs ne sont pas en capacité de développer des jeux sur Linux, eh ben, on va faire un système de traduction méga optimisé pour pouvoir jouer à des jeux Windows sur Linux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'honnêtement, ils ont tout donné pour traduire le maximum de jeux possibles. Je vais prendre quelques exemples. Ils ont embauché des cracks intersidérales de Linux, des Linuxiens de malades, notamment ce gars, Alberto Garcia. Si vous aimez les conférences un peu barbues, allez-y. Mais voilà, donc là, il explique la stack de Proton qui est basée sur Vine, sur DXVK. Et voilà, il y a du DirectX, il y a du Vulkan, bref, il y a des choses qui parleront aux initiés.
Ça, c'est que des trucs qui traduisent une langue en une autre.
Si exactement, c'est ce que je disais, la couche de traduction. Bref, il explique tout comment ils font pour optimiser le plus possible l'expérience. Donc, en fait, oui, voilà, en résumé, c'est faire le plus de ponts possible entre les deux OS. Et ce qui est incroyable, c'est que même si des ponts existent déjà, des fonctionnalités existent déjà pour traduire une commande Windows, enfin un appel Windows en un appel Linux, ils vont quand même travailler dessus pour les rendre encore plus rapides. En fait, pour eux, le but, c'est d'améliorer les perfs au maximum pour que le jeu en bout de chaîne, il tourne le plus rapidement possible. En plus, sur un device qui est petit. C'est pas un PC de gamer, c'est le Steam Deck. Donc en fait, chaque appel, ils le reprennent et ils l'optimisent. Et ce qui font qu'ils vont jusqu'à contribuer au noyau Linux. Ils rajoutent des fonctions dans le noyau Linux. Bon, ça c'est un billet de blog qui...
Mais voilà, On
va le lire ensemble maintenant. Mais voilà, en gros, ils rajoutent des fonctions dans le noyau Linux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Valve est un méga contributeur de tout l'environnement Linux, du noyau Linux, de Proton. Et en fait, c'est ce projet qui a fait complètement décoller le jeu sur Linux.
C'est génial.
Et ce qui est incroyable, et je crois que c'est que ce qui est incroyable, deux choses incroyables, c'est que déjà, ils font ça de façon complètement ouverte, parce que leur cœur de business n'est pas du tout ça. Leur cœur de business, c'est que les gens achètent les jeux vidéo sur Steam. Et donc, ils font tout en open source, ils discutent avec les gens, ils contribuent avec les gens qui développent le noyau Linux. Bref, ils apportent énormément
de valeur
à la communauté. Résultat, ça fonctionne de ouf. On peut quasiment jouer à tous les jeux sur Steam Deck. Je n'ai plus le pourcentage, mais ça doit être 80-90%. C'est pas tous les jeux, mais c'est quand même incroyable. Proton, par exemple, ils gèrent très bien toutes les manettes différentes. Ils font en sorte que dès qu'il y a une manette qui sort, ils adaptent la couche de Proton pour que tu bindes les bonnes manettes. C'est bête, mais c'est des trucs qui avant étaient d'une complexité infinie. Et c'est ce que disait.
Même sur Windows, parfois, ça marche moins bien.
Et c'est ce que disait le développeur de Chimera OS. Ce qui était chiant, c'était les manettes, en fait, notamment. Et ben avec un Proton qui marche de mieux en mieux, ben pour lui, c'est un bonheur, en fait, d'avoir un Proton super bien intégré à Chimera OS. Et truc incroyable, Linux se démerde mieux que Windows 11 en termes de perf. Alors, c'est pas sur toutes les perfs, mais en global, c'est 6% supplémentaire, alors qu'il y a une surcouche qui fait une traduction entre un jeu qui est développé pour Windows et un jeu qui n'est pas développé pour Windows. Il y a une surcouche de traduction, et dans certains cas, c'est quand même plus rapide. Alors, je vous cache pas que l'article est en allemand.
Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Je joue sur Proton, sur Linux,
ouais,
et j'ai des meilleures performances que ouais, quand je suis sur Windows. » C'est dingue.
Et donc, du coup, tout le monde est sur le cul. Genre, en plus, ils ont pris vraiment... genre, le Steam Deck, c'est le pire truc. Une console portable, pas beaucoup de refroidissement. Ils ont pris le pire cas possible. Ils se sont dit « On va y arriver. » On va y arriver, c'est et c'est génial. Alors, je pourrais vous raconter encore quelques anecdotes. Il y en a une qui va t'intéresser. Ils ne s'arrêtent pas là dans l'optimisation. Devine qui ils ont embauché récemment. Ils ont embauché une développeuse, Alissa Rosenzweig. Est-ce que tu sais qui c'est?
J'ai cru que c'était Azaï ou je ne sais pas.
Exactement.
C'est vrai.
En fait, à la base, on a déjà parlé. Alors, elle a 22 ans, donc, pour vous dire le crack que c'est. Et en fait, c'est elle qui s'occupe de rétro-ingénérer le GPU des puces M1. Donc, on en a parlé la distribution Azaï Linux. On en a parlé dans une vidéo sur Underscore.
Ouais.
Et en fait, ils l'ont embauchée, elle, pour optimiser les pilotes de cartes graphiques sur Linux pour que, encore une fois, le dialogue avec les cartes graphiques et l'OS soit encore plus efficace. Donc, vraiment, ils sont all-in, quoi. Ils sont en mode jouer sur Linux. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi on pouvait jouer sur Linux, qu'est-ce que, concrètement, là, ce soir, on peut faire chez nous? Eh bien, on peut faire comme ce cher charmant YouTuber, construire sa propre console de jeu. et par exemple acheter un boîtier HTPC. Donc j'ai découvert que c'était des boîtiers en fait qui étaient faits pour faire des media centers et qui ont vachement la forme de genre une console. Et donc vous achetez, alors il y a des contraintes, c'est que le Steam Deck il tourne sur une puce AMD. Et donc vaut mieux, en fait, c'est Chimera OS par exemple.
Ne tourne mieux sur AMD.
C'est pas que tourne mieux, c'est qu'il tourne pas sur Nvidia par exemple.
Ah, d'accord.
Les cartes graphiques. Donc, ah, oui. Il vaut mieux prendre un Ryzen en CPU et une carte graphique AMD Radeon.
Oui, qui sont très bien.
Qui sont très bien. Vous mettez ça. Donc ça, c'est par... là, il...
oh,
le YouTuber, il a fait avec ça. Vous allez voir que c'est incroyable.
C'est
et il est en train de le monter.
Franchement, c'est plus petit que certaines consoles, hein, largement ouais. même.
Et en plus, je trouve qu'il a, il a pris un design incroyable. Ouais. Et en fait,
j'ai envie de l'emmener dans mon cartable.
Si t'avances un peu dans la vidéo, tu vas voir que la, la carte graphique prend l'intégralité de.
Ouais, c'est quasiment que la carte graphique.
C'est que la carte graphique. Et donc en fait, lui, il construit ça. Il met un Chimera OS dessus parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des Steam OS 3. On ne peut pas le télécharger pour un PC ou une console. Mais Chimera OS, derrière, ça marche super bien. Et en plus, c'est un peu eux qui ont potentiellement initié le fait que SteamOS prenne une autre tournure. Ouais. En plus, Chimera OS, évidemment, se base sur Proton et même sur certaines versions de Proton encore plus améliorées. Okay. Et donc, bah, ils ont tous les avantages de la communauté Valve qui a dev Proton. Et c'est trop, franchement, il y a des, fonctionnalités incroyables. Déjà, ça supporte Epic Games et GOG, pour ceux qui connaissent donc les jeux indépendants. On peut jouer à distance avec la Chimera App. Donc, en gros, sur ton téléphone, tu peux jouer sur, sur ta console qui est dans le salon. Enfin, il y a des trucs à installer, mais
et
ça fonctionne.
Tu utilises quoi derrière?
Je sais plus, mais c'est une, je crois que c'est du...
C'est pas Parsec ou...
Non, je crois que c'est via, via un truc TCP en direct. Ils ont dev un truc.
Ils ont leur propre truc.
Il faudra vérifier, tu me fous le doute, mais, mais voilà. Il y a zéro maintenance, évidemment, et... Il y a le, ce qu'ils appellent le Stream Big Picture chez Valve, c'est cette interface en fait de SteamOS que tout le monde adore sur soit le Steam Deck, soit sur une console. Et donc il y a, tu, en fait quand tu bootes, t'as pas un PC qui boot, t'as une console qui boot avec une manette et tu peux choisir ton jeu, etc.
C'est le bonheur.
C'est incroyable. Et vous pouvez faire des là le mec il a fait un setup à 1300$. Ça fait un peu cher la console, mais c'est parce que il veut jouer à tous les jeux, tu vois.
Là, pour le coup, c'est un setup équivalent à si tu montais ta vraie tour à toi.
Exactement.
Tu as tous les bénéfices de d'un PC gamer. Tu vas pouvoir faire évoluer tel ou tel composant sans jeter tout à la poubelle.
T'as pas PS5, PS6, à tout racheter, etc.
Pas bloqué par un constructeur et par ses futures mises à jour ou par ses paywalls éventuels. Là, tu maîtrises vraiment ta console.
Et surtout, si t'as beaucoup de jeux sur Steam. Bah, franchement.
L'économie de pas payer 70 balles par putain de jeu, rien que ça, elle justifie à 100% ce système, quoi.
Ouais. Et si vous voulez savoir si votre jeu est pris en charge par Proton, notamment, et donc va tourner sur le Steam Deck, il y a un site qui s'appelle ProtonDB, je sais pas s'il a été affiché, mais qui recense. En fait, il y a plein. Tout le monde recense et fait des tests pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quelle carte graphique marche. Ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a d'autres. Console portable à la Steam Deck, par exemple la Asus ROG Ally, mais qui tourne sur Windows.
Ouais.
Et du coup, il y a des gens qui font ah non, mais je vais installer Chimera OS dessus, ça tourne mieux. Et c'est vrai. Et donc, du coup, vous pouvez installer Chimera OS sur votre ROG Ally.
Donc, tu veux dire qu'il y a genre Acer, ils font des partenariats avec Microsoft parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait un putain de truc tactile, une version tactile de Windows dont personne ne veut. Et en fait, en réalité, on installe Chimera OS et ça tourne mieux. Je trouve ça génial.
Il y a même une société qui s'appelle Aya Neo qui, en sortie de sa console, a utilisé, alors pas Chimera OS, mais l'autre Holo ISO.
Ouais.
Avant de faire retour en arrière, parce que bon, c'est quand même des trucs qui peuvent parfois merder un peu. Donc, genre.
Ah merde.
Non, mais ça merde pas, mais en mode. C'est un petit projet fait par un développeur dans son coin pour un produit grand public que tu vends.
Oui.
C'est peut-être mieux de mettre. Ils auraient pu mettre SteamOS s'ils avaient eu l'autorisation ou des choses comme ça, mais Holo ISO, c'était un peu chaud.
Ouais, tu prends des risques quand même si le gars, il est malade ou.
J'ai une petite anecdote et puis après, je vais conclure. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus dur dans le fait de traduire tous les jeux Windows via Proton? J'ai l'impression que je t'en ai mis plein la gueule, Benjamin, je suis désolé.
Non.
Le plus gros casse-tête.
Qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Tester? Non, mais ça doit être une fonction spéciale, quoi. Enfin,
ouais.
Très spécifique.
Ou un jeu spécifique.
Alors, c'est un jeu, tu peux peut-être nous aider un peu.
Ouais. Non, c'est une fonction qu'il y a dans les jeux. Et qui, en fait, ce qui est un véritable casse-tête quand tu veux traduire un jeu de Windows à Linux via Proton.
C'est...
On a déjà... Mais en vrai, c'est dur.
Ah si, je sais. Ouais. Je l'ai vu dans le chat, je me suis fait spoiler.
Ouais.
C'est l'anti-cheat.
Ouais. En vrai, il galère un peu avec... Il y a des jeux où tu peux pas jouer sur Linux à cause de ça. Mais il travaille quand même dessus pour...
Pour traduire les calls anti-cheat
en Linux. Mais les anti-cheats, c'est un des plus gros casse-têtes pour Proton. Parce qu'en fait, c'est compliqué à traduire, quoi.
Bah parce que par définition, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est très très profond dans le système.
Ouais, on en avait parlé.
C'est un rootkit, littéralement, un anti-cheat, donc...
voilà. Et je conclurai avec une petite vidéo, vous allez voir, où en 2013, du coup, le PDG de Valve concluait sa présentation qu'on a vue au tout début, comme ceci. Ah, si tu veux, elle était pas bien ma phrase de lancement, je te la refais. En 2013, le PDG de Valve concluait sa présentation qu'on a vue au tout début de la chronique, comme ceci.
Linux is the base, is the most obvious basis for that, and none of the proprietary closed platforms are going to be able to provide that kind of grand unification between mobile, the living room, and the desktop. Actually, next week,
c'était il y a 11 ans, et 11 ans plus tard, on lui a donné raison. Linux permet de jouer dans son salon, sur téléphone et sur desktop.
Avec des meilleurs perfs.
Avec des meilleurs perfs.
Après, c'est juste parce que c'est un méga richou qui a investi tout son argent pour se dire, vous voyez, j'avais raison. Ça, évidemment, c'est facile. C'est...
Ouais, mais l'argent en fait pas tout.
Le gars, il voulait sa console de salon. Putain, fait chier. Et voilà, il a mis 2-3 milliards. Et...
C'est bon, on y est. Bah, je peux tout facile, donner raison. Hein, en mettant 3 milliards. Et après, en pillant le travail de gars qui ont travaillé open source, etc.
C'est pas vrai.
Il m'enlève toutes les étoiles dans des jeux que j'ai eu pendant... la préparation de ce sujet.
Non, franchement, hyper intéressant. En plus, je suivais un peu cette histoire de loin, mais j'ai appris plein de trucs.
Et il y a des ramifications dans tous les sens. J'ai essayé d'être le plus clair possible, si je ne l'ai pas été. Ça a été. Parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas pu tout dire non plus, il y a vraiment des ramifications dans tous les sens. Mais en fait, rien que de voir tous ces gros cracks qui potentiellement travaillent ensemble ou dans un petit coin, mais qui en fait, dans un même but, sans même parfois le savoir, je trouve ça, mais...
C'est génial, vraiment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.